Una birretta, per favore.
Si ça marche bien, c'est un peu faible. Là, c'est mieux. Bon, mais Festival Chahut, troisième charla de la journée, et comme d'habitude, on commence en musique.
Thank you.
Bonjour, Jonathan Mathias. Alors, je vais commencer par quelque chose qui m'a intrigué quand j'ai fait des recherches par rapport à toi. Tu es diplômé national des arts plastiques, mention richesse et évolution de projet. De quelle richesse parlons-nous ?
C'est une mention que j'ai eue à mon diplôme de troisième année aux Beaux-Arts. Et il recouvrait en fait l'ensemble des pratiques que j'avais. Et du coup, c'était vraiment dans un... dans une idée de savoir comment justement je pouvais mêler des pratiques et mêler des envies et du coup avoir un projet assez riche. C'est ce qu'on demande en plus sur les trois années des Beaux-Arts, de pouvoir balayer plein de choses. Moi, c'est tombé hyper bien parce que je touche à des choses très différentes. Voilà. Et du coup, j'ai eu une mention pour cette richesse et cette différence de projet, à savoir de pouvoir toucher à différentes techniques ou matières, quoi.
Est-ce que tu peux nous parler du travail d'Isabelle Solas ?
Oui, Isabelle Solas, c'est une amie à moi qui est réalisatrice, avec qui j'ai habité un moment en colocation, enfin voilà, du coup que je connais depuis assez longtemps, avec qui on a aussi travaillé sur un festival qu'on organisait Rive Droite pendant plusieurs années dans un village qui s'appelle Camblane. Et après, on a eu des collaborations de projets de courts-métrages ou de résidences autour de la vidéo. Voilà. Et là, sous le coude, depuis bientôt un an et demi, on a une idée de film commun, un faux documentaire, qui du coup serait un truc un peu narratif et fictionnel sur des bases de réalité et de travaux artistiques, autant des siens que de moi, de Rush. Et de savoir comment monter quelque chose qui pourrait mêler deux histoires sur un rapport un peu de narration. Mais on est tous les deux dans plein de projets. Du coup, on a envie de le faire, mais c'est pas fait.
Là, maintenant, j'aimerais que tu nous parles un petit peu des didascalies de jeux de massacre de Ionesco. Je crois que tu connais ça très bien.
Alors oui, c'est un projet qui n'a pas réellement abouti, mais qui m'a amené à une grosse réflexion et à un gros travail. De manière générale, je m'intéresse souvent à la forme que peut avoir un texte ou que peut avoir une forme avant le contenu. Et je suis tombé par hasard sur cette pièce en faisant des recherches autres et vraiment en le feuilletant à la bibliothèque, en l'attrapant. J'ai été impressionné de se rendre compte que ce jeu de massacre, il y a très peu de texte. Il y a 19 personnes qui sont sur scène, qui entrent et qui habitent une place. C'est une place publique dans laquelle il y a des gens qui rentrent, des hommes et des femmes qui ne sont pas nommés. C'est homme 1 à 8 et femme 1 à 8. Et il y a deux enfants, deux bébés. Et au fur et à mesure, tout le monde meurt dans cette pièce. Et il y a très, très peu de texte. Et du coup, dans la forme, en attrapant le livre, ce qui était impressionnant, c'était il entre, il sort, il entre, il sort. Ah, homme 1 entre, homme sort, homme fait ça, homme fait ça. Et du coup, j'ai imaginé un travail en me disant comment ça pouvait réexister en enlevant complètement du coup la forme textuelle et juste sur un système de déplacement. Mais voilà, c'est dans un cahier énorme où il y a beaucoup de démarches de fait et ça s'est jamais réalisé en sachant que c'est pas possible de le faire à 16 ou à 18. Du coup, après, je l'ai imaginé sur un canevas de 4 hommes, 4 femmes. Mais il faudrait que se replonger dedans et avoir un vrai travail. Maintenant, tout est sur plan, pourrait quasiment exister. Et il faudrait un autre axe, mais qui soit plutôt autour de la réalisation, quoi.
Quel a été le plus gros choc que tu as pu voir au festival Entrée Libre, que tu as organisé, je crois, co-organisé ?
Un truc qui est assez drôle, parce que ça fait écho aussi à ce qui se passe ce soir. On a organisé pendant plusieurs années ce festival, et sur plusieurs éditions, on a organisé un truc qui s'appelait La Soupe, et qui était l'idée de comment justement amener les gens à participer à quelque chose où ils ne savaient pas du tout ce que c'était. Ils venaient à une manifestation qui s'appelait La Soupe. Ils arrivaient sur une fois, on l'a fait sur un parking de supermarché, il n'y avait rien, et il y a un camion qui arrivait, et au bout d'un moment, il y avait des protocoles qui se mettaient en place pour déplier une soirée, et le temps de 3 heures, du coup, c'était une implantation, une réalisation d'une soupe, la cuisson, le fait de manger avec les gens et de replier tout ça, hein, voilà, en mettant l'accent sur tous ces axes et pas que sur la convivialité du repas, de savoir comment ensemble on pouvait fabriquer quelque chose qui ne soit pas juste un repas. C'était un peu le prétexte, mais au bout du compte, le repas prenait beaucoup moins de temps que l'installation et la désinstallation. Avec du coup la frustration que ça créait quand on a dit « Bon, maintenant on bouge et on va tout ranger », les gens auraient passé 3 jours ici.
Pourquoi ça fait écho à ce soir, quoi ? Qu'est-ce qui va se passer ce soir ?
Ça fait écho à ce soir parce qu'il y a un truc qui s'appelle le banquet, qui se prépare depuis ce matin. Qui, du coup, c'est une autre idée, mais c'est toujours autour de la nourriture et puis de la convivialité, de tout ce qu'on peut, on peut vivre ensemble. Et qui, du coup, crée aussi une jolie image depuis ce matin sur la place, là, qui arrête les gens. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'en plus, tout le monde ne sait pas très bien à quoi il a affaire. Et pourtant, dans la médiation, même Benoît et tous les gens présents disent « On fait à manger, revenez à 8h, il y a l'apéro offert et les pâtes. » Et tout le monde rigole, on a l'air de dire « Ouais, ouais. » Et ils sont obligés d'insister « Mais si, on vous jure, c'est vrai et c'est gratuit. » Donc, c'est pour ça que ça fait écho dans ce rapport-là. Du coup, il y a ce rapport à la nourriture. Effectivement, quand on veut fédérer les gens, il est quand même assez, assez chouette, quoi.
Donc, tu t'occupes de la scénographie de cette place. Et on discutait tout à l'heure, avant de commencer cette interview, sur la difficulté que tu avais dans la réalisation de ce que tu as pensé depuis des mois et des mois. Et tout à l'heure, tu m'as dit que tu avais pu avoir un moment lointain sur un banc, tu avais pu observer un petit peu tout ça. Qu'est-ce que tu as vu à ce moment-là ?
Eh bien, je suis très content parce que de ce que j'en ai vu de loin, c'est que j'ai pas vu de scénographie, en fait. J'ai rien vu. J'ai juste vu plein de gens sur la place qui étaient installés comme ils l'auraient été chez eux, et c'était un peu le pari de l'installation, de se dire que je voulais vraiment pas que ça soit quelque chose qui du coup fédère ou représente une maison avec le côté un peu fictif et théâtral du coup de l'objet, et du coup un truc qui met les gens un peu en recul en se disant je regarde ce qu'il y a, mais quelle est ma place, quoi. L'idée, c'était plutôt de se dire que tout ça serait mangé par la présence des gens, et que c'est les gens sur la place qui faisait l'installation plus que tout ce qui est installé pour, sont pour moi que des déclencheurs qui du coup ont une tête, ont un rapport esthétique parce que c'est quand même des objets. Mais voilà, du coup ils ont été choisis et simples et dépareillés pour justement qu'en fait ils soient pas du tout connotés de quelque chose, et à l'inverse de la place et du mobilier urbain, dans quelque chose de complètement dans l'accro et pas du tout dans quelque chose de lisse ou de plein.
Quand tu parles d'objets, tu fais référence à quoi ? Quels sont ces objets un peu ? Décris-nous ces objets sur cette place.
Alors, sur cette place, l'ambition, c'était de faire une maison. Du coup, on a un peu réfléchi. Au début, on est parti en se disant, on va faire plein de pièces. Donc, on a commencé à faire des listings de fous en disant, qu'est-ce qui fait les pièces de maison ? Qu'est-ce qu'on aimerait comme pièces dans des maisons ? Donc, on avait un grenier, on avait une cave. Enfin, voilà. Puis, en se disant, c'est super, on va être en haut de la flèche, il y aura un grenier, on pourra s'installer. Au fur et à mesure, ça s'est beaucoup réduit. En se disant concrètement, il faut que ça se tienne aussi dans quelque chose qui se lit, quoi. Et les objets, c'est vraiment les objets que justement, pour moi, représentaient les objets symboliques plus ou moins de pièces. Du coup, dans la cuisine, on a de quoi manger une table, un banc et un îlot pour travailler, un plan de travail qu'on met à disposition avec de quoi chauffer à manger. Donc, un côté un peu pique-nique, mais qui peut s'améliorer avec de la cuisine. Dans un salon, il y a de quoi ça soit pareil, des canapés et tables basses pour créer juste un axe de relation. Voilà, du coup, c'est du mobilier assez simple et en majeure partie récupéré à droite, à gauche. Voilà.
Tu voulais concevoir une maison pour que les gens habitent cette maison à ciel ouvert. Et comment t'as imaginé qu'ils puissent venir habiter cette maison à ciel ouvert dans un lieu qui vit déjà avec son biotope, comment tu as conçu ça avant ? Et j'aimerais que tu nous dises aussi l'utopie que tu avais au départ et quelles sont les contraintes qui ont amené à créer ce qui existe maintenant.
Alors, tout au début, moi je travaille avec l'équipe de Chahut depuis le mois de novembre. Au début, elles sont venues me voir pour une mission en fait, très spécifique, en me disant, depuis 2 ans, on s'installe tous les lundis matins sur un endroit de la place, et on discute avec les gens de qu'est-ce que ça fait les travaux chez eux et en eux. Elles ont suivi les travaux au fur et à mesure, du coup elles ont été délocalisées, elles ont changé d'emplacement, voilà, c'était très étrange. Quand moi je suis arrivé, elles sont en commission, elles m'ont dit, voilà, nous on a Pour l'instant, on est installé là, on a une table, 4 chaises. On aimerait que ça prenne un peu de corps, que du coup ça puisse ressembler à autre chose, que c'était vraiment du camping. Et on dit, du coup, est-ce que toi, ça t'intéresse de bosser autour de ça? Moi, j'ai dit oui. On s'est donné rendez-vous donc un lundi matin sur la place, voir la tête que ça avait et où ça pouvait aller. Et je suis arrivé ce matin-là, c'était très drôle, ils avaient vraiment une table de camping avec 4 chaises, un thermos de café ou quoi. Donc il y avait vraiment ce rapport où la place était fermée, elles étaient autour, interdites de rentrer, quoi. Et il y avait vraiment ce rapport, on campe ici en attendant que... En attendant, on ne savait pas très bien, mais en attendant. Et le jour où j'y étais, il y a commencé à avoir des barrières qui sont tombées. Enfin, ils ont commencé à ouvrir des endroits de la place. Et du coup, l'ouverture que ça donnait, c'était eh ben super. À partir de lundi prochain, ça veut dire que vous pouvez traverser, rentrer sur cette place et du coup l'habiter. Vous en êtes les premières occupantes, quoi. Et du coup, de cette idée, je me suis dit, c'est intéressant de passer du camping où on était devant à l'intérieur. Et l'intérieur, du coup, ça passait forcément par des pièces. Et comme il y avait un rapport à la relation, à la médiation, je me suis dit, le rapport au salon, c'est la première pièce dans laquelle tu peux recevoir quelqu'un. Tu reçois quelqu'un chez toi, ça n'engage pas trop, tu le reçois dans ton salon, c'est un lieu de représentation. Voilà, du coup, c'est né de ça, et très vite, je me suis dit, et puis, il y avait un rapport en se disant, ça pouvait évoluer, cette scénographie. Donc, on disait, on pourrait faire un salon, puis après, ça pourrait devenir une cuisine, du coup, ça serait un autre mobilier, puis une autre genre de relation qui serait à l'intérieur. Voilà, et assez naturellement, l'idée de cette gradation de pièces évolutives, c'est dit, mais ça serait très bien que pour le mois de juin... tout ça vienne se remettre en place et que ce soit agrandi à l'échelle de la place. Du coup, voilà. Et du coup, sur une permanence de 3 jours de festival. Et avec l'idée de pareil, du coup, de donner la place qu'avaient eu les filles de première habitante ou d'habitante à tous les habitants du quartier, de se dire la place vient de rouvrir, profitons de cet espace public, il est tel qu'il est avec ce qu'on y a mis dessus, et comment là, pendant 3 jours, on peut créer des déclencheurs et qui vont peut-être perdurer, et peut-être qu'on espère qu'il y a des canapés qui sortent de temps en temps pour que les gens s'y installent. Et cet après-midi, j'ai vu ça vers la place Fernand Lafargue, des gars qui avaient sorti une table et mangé sur un banc public à 300 mètres de l'installation. Mais du coup, voilà, je me disais, si ça peut, les 3 jours peuvent donner envie aux gens de faire ça, et d'installer leur linge-fenêtre et de tout ça, et bien, c'est très bien.
Pourquoi t'as envie absolument que les gens se réapproprient la rue comme ça, sortent de chez eux pour vivre ce qu'ils vivent chez eux dehors, quoi. C'est quoi qui te donne envie de ça?
Alors après, là, c'était l'idée qu'ils vivent comme chez eux sur la place. C'était vraiment la commande spécifique au festival ou l'idée du festival en se disant il y avait vraiment ce rapport à la maison qui m'est tombé dessus. Après, de manière plus globale dans mon travail, dans ce qu'on mène comme travail, il y a vraiment un rapport, en effet, à habiter l'espace public, qui n'est pas forcément dans un rapport habité dans le quotidien ou être dans... mais plutôt de savoir comment... En fait, l'idée vient de l'espace public et par notion, un espace qui nous appartient à tous. Il est quand même dans les villes assez conséquent. À la fois, il est là pour gérer des flux et pour gérer plein de choses, mais il y a des endroits qui sont censés accueillir la relation, ou qui sont des espaces de relation qui sont posés dans ces endroits, qui marchent plus ou moins bien en rapport au mobilier, et du coup, à ce que ça donne en vrai, au nombre de bancs, ou à la façon dont c'est disposé, voilà. Et de se dire comment, en fait, cet espace-là, on peut le réenchanter. Moi, c'est ma vision. Je te dis, les gens peuvent sortir des canapés, mais si les gens ont envie de planter des plantes devant chez eux, envie de tout faire, et si c'est pas de l'art, c'est encore mieux. Enfin voilà, du coup, de vraiment avoir un rapport en se disant, quand on habite n'importe où, il y a tout ça qui est devant et qui appartient à tout le monde. Et c'est assez joli de se dire, c'est ce que moi j'aime, en tout cas dans les villes, quand je me déplace, de voir qu'il y a des bouts de vie qui se passent dans des rues. Et du coup, à échelle globale, quand on voit la place et l'implantation que ça a, ça donne envie. Et en parallèle, j'ai travaillé avec l'école des menus, sur lequel on a travaillé sur l'idée de se dire comment on pourrait urbaniser l'espace. Donc on a imaginé un projet qui s'appelle Bordeaux 2045, en se disant il n'y a plus de place et qu'est-ce qu'on fait. Du coup, imaginons-nous qu'on implante un quartier à l'intérieur du quartier et qu'on urbanise la place Saint-Michel. Du coup, sur une idée, ça a été les tours collectives, en disant quels usages on pourrait imaginer pour demain. Et sur l'autre, c'était de qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait des nouveaux commerces? Est-ce qu'on fait tout ça? Enfin voilà, du coup, c'est savoir cet espace, il est déjà là. On ne va pas le bâtir d'immeubles, mais en tout cas, il faut l'occuper hormis une jolie carte postale.
Tu crois pas qu'il fonctionne naturellement comme ça, sans avoir à forcer à le réenchanter ? Parce que quand tu parles de réenchanter, c'est qu'il y a eu quelque chose qui fonctionnait plus.
Alors c'est pas forcément quelque chose qui fonctionne plus, mais ça revient un peu juste avec ce que je disais juste avant là, sur le côté vitrine ou représentation. Concrètement, mais là ça tombe très bien parce que juste en face de nous, on a un espace d'accueil pour les enfants qui est assez drôle parce que c'est tout petit. Effectivement, c'est très joli quand on fait des plans d'urbanisation et d'aménagement. On pense à l'espace public en se disant on l'aménage et puis les habitants peuvent venir vivre dessus. Là, je ne sais pas si vous l'avez vu en journée depuis que ça a ouvert, c'est un peu la cohue parce qu'en fait il n'y a que deux jeux. Et c'est au milieu des voitures. Enfin, c'est très drôle. Par contre, c'est vrai que, effectivement, si on recense le nombre d'espaces de jeux ou d'espaces d'assises dans la ville, il y en a beaucoup. Après, quand je parle de verre enchanté, c'est que oui, pour moi, ils sont pas assez nombreux et ils sont pas habités ni très habitables. On est plutôt dans la gestion de flux et de mouvements que dans une installation des gens. Et ce type de mobilier ou d'espace de jeu, on est complètement en réaction. À savoir que si tous les enfants du quartier veulent venir jouer ici, c'est pas possible. Par contre, c'est très joli sur le projet. On a des réaménagements avec des espaces d'enfants. Donc c'est pour ça que je dirais appropriez-le. Effectivement, n'attendons pas qu'on nous mette des pontes de singes dans des cages pour jouer dans la rue ou pour y faire ce qu'on a envie d'y faire, quoi.
Est-ce que tu peux nous parler un peu de la PTT ?
Oui. Alors, la prise de tête, non, c'est, ça peut être ça. La PTT, oui, c'est quelque chose qu'on développe avec le collectif avec qui je travaille. Ça veut dire poétique tout terrain. Et l'idée, c'est, alors, c'est pas forcément de se réenchanter un espace ou réenchanter forcément, mais l'idée, c'est de savoir comment, justement, faire un pas de côté par rapport à un contexte. Quel qu'il soit, et du coup voilà, du coup poétique tout terrain, à savoir que du coup on aime bien passer autant dans tous les genres de contextes et qui sont le début de nos travaux. Il commence toujours par un contexte dans un endroit et du coup on s'adapte, et tout terrain parce que du coup ça veut dire qu'aussi on peut se refaire sur des choses très différentes en forme dans quand ça existe, quoi.
On va faire une petite pause musicale avec l'Association pour la recherche d'un folklore imaginaire.
3 vestons, 4, 5, 6, 7, 32 janvier, cette même année. Dénombrés, 3000 champs, déclassés, comptés. 3, 4, 5, 6, 7, 40 000, déchaussés. 7 rangées dans 6 fichiers, 5e classeur, gauche, 8e rayon, armoire, métal, métal, armoire, métal, légèrement voilé, tigre, filou et vissé. Récupérer 1, 10 000, 1, 2, 3, lacets usés, 1, 2, 3, 4, 5, 3 vestons, un rouge, un laminé, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, cheminot, ou 18, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, gravat, 2. Et des côtés de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais
Dans ton travail, tu questionnes les possibilités de rencontre entre différentes matières, différents espaces, corps, architecture, végétal, textile. De quelle manière tu procèdes et que recherches-tu en mêlant tout ça ?
Alors, en fait, je ne mélange pas tout à chaque fois, heureusement. Du coup, c'est autant... c'est dans un vraiment un rapport au contexte, en disant du coup de d'où de quel endroit ça part et de quel endroit ça part en effet, et en se disant après en fonction, c'est un peu, tu vois, ça revient sur le début, sur le rapport à la richesse des projets quand j'ai eu mon diplôme aux Beaux-Arts, dans cette idée de se dire que j'ai pas je maîtrise suffisamment ou pas suffisamment, mais en tout cas ça me pose pas de problème, plein de médiums différents. Qui fait que du coup j'aime bien ne pas me dire que je fais que de la vidéo ou que je fais que de l'installation ou que de la performance, en sachant qu'avec le collectif on est quand même plutôt dans un rapport à de la performance dans l'espace public et du coup qui met en jeu plutôt le corps, et aussi on a un projet autour des mutations de la zone de Belsier en fait, l'accompagnement de la mutation des travaux. Du coup là quand on parle de corps et d'architecture, c'est vraiment dans une recherche comme ça de savoir comment par des photos ou des bouts de vidéos, on arrive à mettre en relation des architectures qui soient soit en train de tomber, soit en train de changer, et de savoir comment un corps, ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, de comment on peut poétiser l'espace, ou en tout cas proposer des attitudes d'espace public avec des corps à l'intérieur. Donc on travaille depuis 3 ans maintenant sur un projet qui s'appelle Calendrier, où on traîne dans des lieux en mutation, et du coup on vient poser des images, des corps, on est deux à l'intérieur, habillés en sous-vêtements, du coup dans ce rapport très intime où on ne se balade pas en sous-vêtements hormis chez soi. Et du coup, comment ces espaces qui vont être réhabilités, qui vont exister, le temps de photo deviennent anticiper des espaces qu'on habite, donc qui sont soit en déshérence, soit en construction, soit qui vont devenir. Voilà, du coup, le rapport entre comment on peut amener des présences dans une architecture et y jouer un décalage avec ce qui va y être ou ce qui y a été. Et dans la même lignée, on bosse sur les abattoirs, en fait, sur le site des abattoirs depuis 2011, où on a réalisé 2 courts-métrages là, avec le collectif, où un premier qui s'appelle Le complexe de la viande, qui est le dernier, qui a été réalisé le dernier mois avant la fermeture du lieu, et qui est une comédie musicale sur des corps sanguinolents, où en fait il y a 3 personnages qu'on peut amalgamer, on ne sait pas très bien au début si c'est des travailleurs du lieu, voilà, qui du coup viennent amener un rapport un peu chorégraphique sur fond de carcasse, et du coup qui viennent jouer comme ça avec des choses un peu taboues sur la chair animale et humaine, et du coup qu'est-ce qui devient le plus dérangeant, est-ce que c'est ces corps qui dansent avec la société du spectacle comme ça qui se met en représentation, ou ce qui est derrière. Voilà, donc ça c'était le premier opus sur ce lieu. On est en train de sortir le deuxième film là, qu'on peut voir à la Galerie des Étables, on est là jusqu'à dimanche, qui s'appelle Marché d'intérêt national, qui est du coup les 2 ans de déshérence du lieu, où une fois que ça a été fini, ils ont rangé tout le matériel qu'il y avait à l'intérieur, ça a été vendu aux enchères, donc on a accompagné tout ce temps-là. Et après, du coup, il y a eu tout ce moment où il ne se passait plus rien, le lieu était à moitié désaffecté, il a été détruit. Et nous, on est venus se balader dans ces endroits et on a commencé à imaginer des présences autour d'hommes avec des masques de chevaux, qui du coup, pour nous, c'était un rapport à l'hybridité entre des anciens travailleurs et les chevaux qui ont été tués. Enfin voilà, c'est un rapport comme ça. Du coup, et là, c'est le film raconte la sortie de ces personnages, leur dernière nuit, le dernier moment où ils vont quitter ce lieu parce que les travaux recommencent sur cet endroit maintenant, et vient s'installer la MECA, qui est la maison de l'économie créative et artistique, qui est du coup un lieu dédié à la culture. C'est assez rigolo aussi comment le pont se fait d'un endroit où c'était vraiment un rapport très 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 viande, et là comment on vient amener autre chose, et du coup avec un bâtiment aussi énorme, et du coup le troisième film va se passer sur la construction de cet endroit là en espérant pouvoir filmer des scènes, et pourquoi pas la dernière scène dans le bureau de la directrice du FRAC ou dans la scène nationale de l'OARA.
La scène du suicide,
ça, ouais. Oui, peut-être, ouais.
En fait, c'est une forme de travail sur la mémoire, quoi, que vous essayez de détourner la mémoire. Mais est-ce que C'est par nostalgie que vous faites ça? Ou c'est quand tu dis que tu veux accompagner la mutation, c'est voilà parce que c'est comme ça, c'est une mutation et qu'il faut faire avec? Ou c'est quelque chose que tu veux dénoncer?
Alors, c'est pas du tout nostalgique, justement, c'est pas du tout un travail de documentaire ni du lieu. Enfin, ni du lieu, ni de ce qui a pu s'y passer. C'est pour ça que dès le début, on a pensé à un film en trois parties. Du coup, en se disant, on part de ce qui est, donc sans constat nostalgique, mais en disant qu'à ce moment-là, ce lieu, c'était un abattoir. Du coup, on prend le lieu comme il est. On vient y ajouter ce qu'on a envie d'y ajouter dessus comme regard. Sur le deuxième temps, c'est pareil. Donc, c'est accompagner cette mutation, mais sans forcément y poser un regard, hormis un regard poétique ou un regard qui vient parler de quelque chose. Mais du coup, et après le troisième film qui serait sur un futur avec ce qui va exister en vrai, mais il n'y a pas, il y a un filtre artistique entre tout ça en se disant c'est ni dans la nostalgie, en se disant avant c'était mieux, parce que de toute façon les villes évoluent tout le temps et tout ça, enfin voilà, du coup il y a quelque chose d'assez constant, et c'est plutôt ce qui nous intéresse, c'est tout ce moment de maintenant, de un peu ce qu'ont fait les filles avec le projet des travaux, du coup de savoir tout le temps de la mutation entre le moment où on a l'idée, le moment où on valide un plan qui existe sur papier, qui est présenté en maquette, et le moment où il est réalisé, si on prend Beltier, il y a 5 zones de travaux, ou 5 phases de travaux, si je ne me trompe pas, ça va jusqu'à 2030. Du coup, en se disant, avant de se baigner dans la piscine qu'il va y avoir dans la Garonne, en 2030, qu'est-ce qu'on fait pendant tout ce temps de maintenant et qui, maintenant, c'est des grues, des chantiers. Enfin, voilà, du coup, comment cet espace-là, on peut se le réinvestir en se disant, qu'est-ce qu'on fait dans cet espace? N'attendons pas le futur de ces lieux qui ne seront même pas destinés à nous. Du coup, en attendant déjà, qu'est-ce qu'on fait là, maintenant, quoi? Et comment, c'est pas forcément, tout à l'heure, quand je disais réenchanté, c'est pas réenchanté dans le côté bisounours, faut que tout soit joli, mais c'est de dire, là on vit avec ça, et du coup, qu'est-ce qu'on peut en faire, quoi.
Mais aujourd'hui, ces lieux-là, quand vous avez fait ces expériences, donc vous avez vécu dans des lieux qui étaient abandonnés en attendant d'être requalifiés, ou vous avez travaillé au milieu des ouvriers qui étaient déjà là en train de jalonner les nouvelles choses, et comment s'est passée la confrontation entre ces deux milieux de travail, quoi.
Alors ça c'était très cocasse sur le premier film, en fait. On a rencontré le directeur des abattoirs qui maintenant est parti à la retraite, qui était super, et on est allé le voir en disant voilà, on a envie de faire ça. Il a plus ou moins bien compris le projet et les aboutissants, en disant oui moi je veux bien. Du coup, on s'est dit c'est super, on va le faire. On a pas mal travaillé en repérage. Du coup, on y est allé plusieurs fois. C'était et la veille du tournage, sur des accords, en disant quand même on va aller vérifier. On est allé rencontrer la vétérinaire juste pour lui demander est-ce qu'il faut qu'on ait les cheveux couverts, est-ce qu'il faut qu'est-ce qu'il faut qu'on ait dessus réellement, est-ce qu'on peut être habillé en civil ou pas. Et elle nous a dit ah non mais là pas du tout, c'est pas possible. Moi je mets mon veto sans faire de jeu de mots en disant. C'est pas possible, vous ne viendrez pas parce que les ouvriers vont se couper, parce que vous allez faire n'importe quoi devant. Enfin voilà, du coup, il y avait vraiment un truc où la veille, ça a failli s'arrêter, alors que ça faisait 2 mois qu'on venait faire des repérages et qu'on venait faire les guignols devant eux et danser. Et qu'en 2 mois, eux, ils étaient là pour bosser, ils nous regardaient, ils rigolaient. Mais malgré tout, enfin voilà, du coup, la confrontation était très simple avec les ouvriers sur la chaîne d'abattage. Mais après, souvent avec la hiérarchie, c'est beaucoup plus compliqué à gérer. Et sur le deuxième film, ça a été la même chose. Et quand on se confronte, pareil, à des trucs dans l'espace public, c'est souvent ça, en fait. Quand c'est soit à l'inverse, soit on a des accords et des sous pour dire « Oui, faites ce projet, c'est très intéressant, faites-le le temps des travaux. » Et du coup, on a des accords et des subventions pour les faire. Et une fois qu'on arrive sur le lieu en travaux, c'est des chefs de chantier qui disent « Ah non, mais c'est pas possible. » Donc il ne peut pas y avoir de projet. Ou c'est l'inverse, c'est des gens vachement partants, des équipes qui disent « Oui, nous, on veut bien qu'il se passe ça. » Et inversement, c'est rarement dans les deux cas et jusqu'au bout que ça va ensemble. Et là, pour le projet, ici, concrètement, tout à l'heure, tu disais entre ce qui a été imaginé et ce qui est réel et qu'est-ce qui bouge entre, c'en est l'exemple frappant en disant que au début, il y a plein de choses qui fonctionnent super jusqu'à encore hier, ce matin, à midi, et des trucs qui changent jusqu'au dernier moment. Parce que ça fonctionne pas soit à un niveau hiérarchique ou soit concrètement, à l'inverse, sur le terrain, avec des contraintes très matérielles où le placier va dire « Ah oui, mais en fait, moi, j'avais pas eu le plan qu'on avait envoyé il y avait 3 mois. » Enfin, c'est, du coup, c'est très drôle de se voir confronté comme ça à des choses.
Une autre pause musicale, parce que quand j'ai, voilà, me suis renseigné sur votre travail, j'ai pensé à un groupe de musique industrielle qui travaille sur ces notions. Eichhorn de Motten, Stay of Berlin. Est-ce que tu peux nous parler maintenant du manifeste Mont et Merveille et de cette devise que j'ai trouvée, formaliser, rafraîchir, revisiter, réinventer et innover?
Ah ben c'est une très jolie devise, merci de me la redonner. Tout à fait. Non, mais c'est très bien de me rafraîchir juste le dossier. En fait, le manifeste, c'est venu... Monts et Merveilles, en fait, ça a commencé avec un ami à moi qui s'appelle Emmanuel. Avec une envie, moi j'étais au Beaux-Arts, lui il était étudiant au conservatoire en musique. Et moi j'avais des envies, lui aussi, et du coup on s'est retrouvés sur des blagues en se disant tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? On a envie de faire des choses ensemble. Alors, à ce moment-là, on chantait dans une chorale, on habitait Camblane. Et un jour, la chef de chœur dit « Ah, ça serait sympa de filer un coup de main pour porter un piano d'un endroit à un autre. » C'était ridicule, il y avait 500 mètres à faire. Et ils nous ont dit « Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a un camion ?» Puis on s'est dit « Ah, bah, ça donne trop envie, en fait. Oui, il y a vraiment un truc à faire autour de ça. » Et du coup, en effet, on connaissait quelqu'un qui avait un camion à plateau. Et on a commencé à imaginer, à se dire « Bon, ben, on va organiser un truc autour de ce déplacement de piano. » Et on a fait passer un casting à des gens pour être public. Donc c'était, ça a inversé complètement le truc en se disant, voilà, donc les gens sont venus, ils ne savaient pas à quoi ils allaient participer, ils sont venus à un entretien, on les filmait, on leur demandait plein de questions. Donc une question, c'était « Êtes-vous disponible tel jour ?» Donc c'était un des critères très importants, c'est qu'ils nous disent oui. Et de là, on a sélectionné 9 personnes qui répondaient aux critères. Les critères, c'était qu'on avait construit une grille qui faisait que justement, on avait le moins de critères possible. Donc, en fait, sur des QCM inversés qui faisaient qu'au bout du compte, on savait qu'on allait récupérer un enfant, une mamie qui aime le jazz, enfin, je dis n'importe quoi, mais du coup, voilà, ça déconstruisait comme ça qu'on allait avoir un public assez différent. Et ces gens-là sont revenus à un moment donné, on leur a donné rendez-vous, et là, ils ont été embarqués sur un camion à plateau sur lequel il y avait ce piano, et il y a eu une balade pendant 10 minutes dans le village avec un concert de piano, de musique improvisée. Là, ça a été la première forme du... qu'on a monté, qu'on s'est imaginé, et ça a continué comme ça avec au début une forme par an, voire un peu plus, et voilà, ça a continué, ça a pris un peu plus d'ampleur, en étant nous-mêmes surpris que ça fonctionne. Au début, c'était un peu plutôt le fait de s'amuser ensemble, enfin voilà, de créer des choses, et puis on s'est dit, en fait, il y a un vrai filon dans lequel on peut aller, on peut s'amuser et à la fois créer clairement quelque chose. Et donc on s'est dit aussi dans quel réseau et dans quel milieu on se met un peu. Moi j'étais au Beaux-Arts, lui était au conservatoire, une troisième amie qui du coup elle aussi était au Beaux-Arts. Et se dire comment on fait un collectif en se demandant aussi quelle est la place de chacun. L'idée c'était pas d'avoir un musicien, d'avoir un vidéaste et une plasticienne et de se dire comment on habite un espace à un moment donné tous les trois ensemble. C'était plutôt de se dire comment... À tous les trois, on fait un pas de côté pour faire quelque chose qui devient Monts et Merveilles. Et le manifeste est né de là en disant, du coup, on s'interroge et on pose un manifeste en disant, c'est comme un dogme, entre guillemets, qui évolue un peu au fur et à mesure, mais sur lequel, quand même, après 10 ans de temps, quelques choses ont bougé, mais très très peu. Du coup, voilà. Ce manifeste est né comme ça. Et après, je ne sais plus les exemples que tu me citais.
Formaliser, rafraîchir, revisiter, réinventer et innover.
Ouais, ben ça, voilà. Alors ça, c'est très drôle parce que c'est à la fois réel au premier degré, aussi on joue vachement avec le langage de manière générale. Et du coup, là, entendu comme ça, ça me fait penser à une formule toute faite qui a un côté très rafraîchissant et qui à la fois est sincère et à la fois aussi joue de ce rapport-là en se disant qu'est-ce que c'est innover, rafraîchir, faire un pas de côté. Enfin voilà, du coup, c'était de la formulation.
J'ai trouvé aussi que vous définissiez comme des penseurs de forme, à la posture hybride et oscillatoire, dont la réflexion en acte n'autorise aucune limite de médium ou de territoire. Alors, est-ce que tu peux développer un petit peu
Ouais. Alors ça, c'est en fait, penseur de forme, ça c'est vraiment un mot, une expression qui nous intéresse et qu'on trouve assez juste pour notre travail, du fait que oui, on n'a pas de limite de territoire, c'est un peu comme la poétique tout terrain, même si ça paraît tout fait, ça veut vraiment dire que, en effet, on peut s'emparer d'endroits. Et que du coup, on en crée quelque chose. Je me rappelle même plus, tu sais quoi ? Oui.
Alors, des penseurs de forme à la posture hybride et oscillatoire, dont la réflexion en acte n'autorise aucune limite de médium ou de territoire.
Oui, alors. Mais oui, mais t'as raison. Et du coup, penseur de forme, oui, et ça va avec la fin de la phrase, en fait, qui est du coup, on peut tout hybrider, à savoir que on réalise autant des calendriers que des courts-métrages, que des performances, que des actions. Enfin voilà, du coup, c'est dans cette histoire de limite de forme, on n'en a pas. Et du coup, c'est un contexte et on n'a pas... même si forcément, a priori, on a toujours une présence qui traîne à un moment donné, soit dans un moment de présentation, soit en amont, mais du coup, il y a forcément quelque chose qui se passe. mais penseur de forme, oui, en sachant que du coup, on peut se glisser et dans tous les milieux et tous les contextes, et qu'avant tout, on ne se définit pas par une forme qui est la nôtre en se disant « Monts et merveilles, c'est égal ça ». Monts et merveilles, c'est égal penseur de forme. Du coup, c'est hyper ouvert en se disant qu'on aime beaucoup se casser la tête à réfléchir à des formes, et plus elles sont variées et plus elles sont variables, plus ça nous intéresse. Et dans notre manière de travailler, on se rend compte que dans ce qu'on produit réellement, on prend beaucoup de temps en amont et en réflexion, et que c'est une part assez importante dans notre travail. On passe des fois des mois à écrire des choses qui vont exister 20 minutes, et on empile ça de plus en plus en se disant que, du coup, ça nous aussi nous questionne en se disant quel plaisir on prend à monter ces formes aussi en amont, quoi. Du coup, on n'est pas que dans la représentation. Et comment, justement, si on faisait que des courts-métrages, admettons, sans que ce soit un rapport à la facilité, mais il y a quelque chose qui s'installe dans une routine. Et là, on aime bien se surprendre en se disant, eh ben, on n'a pas de limite. Et aussi, penseur de forme, en sachant que, du coup, plus ça va, plus on travaille avec des collaborations. Et que quand on veut faire un court-métrage, on invite des réalisateurs. Quand on veut faire des photos, on prend un photographe. Et pour toutes les formes, elles se pensent comme ça. Alors qu'il y a quelques années, on était dans ce rapport d'hybridité en disant on gère nous aussi tout d'une main de fer et on va jusqu'au bout de chaque projet. Et maintenant, on pense aussi les formes et on est à l'intérieur, mais en se disant qu'aussi on n'a pas besoin de savoir faire du montage pour faire un film et qu'il y a des gens qui savent le faire et du coup on va s'entourer de ces personnes-là.
Alors, est-ce qu'il y a une vision, mon émerveille ? Est-ce que maintenant tu pourrais définir une forme d'identité à force de travail et de projet ?
Une vraie identité, je pense pas. Il y a plutôt des choses qui sont un peu lancinantes. Du coup, c'est vraiment comment on peut s'amuser à regarder ce qui nous entoure assez simplement, enfin dans le quotidien, et de voir comment on arrive à en amener un certain décalage en partant des codes et des usages qui sont présents, avec du coup des notes plus ou moins en fonction des projets, plus ou moins cynique ou plus ou moins enchanté. Voilà, c'est de comment s'emparer d'un espace. L'identité, je crois qu'elle se tient là, avec un certain plaisir à jouer avec le langage et manier le texte, avec ce que ça comporte de forme et de fond. On s'interroge souvent sur la forme et le fond en se disant que souvent on aime bien mêler les deux. Et du coup, en utilisant et en travaillant et en triturant la forme, on peut donner un fond qui devient autre chose que ce qu'il était à la base.
Bon, et pour finir, Jonathan, merci d'avoir été présent à cette interview. Est-ce que tu pourrais imaginer de façon utopique une vision moins merveille de Bordeaux en 2030 ?
Une vision de Bordeaux moins merveilleuse en 2030 ? Eh bien, ça serait que pour 2030, tous les gens soient dans la rue et rentrent dormir chez eux et qu'ils passent le maximum de temps partout et que les quais débordent et qu'il y ait surtout des espaces non utilisés et non exploités qui soient ouverts et que les gens s'emparent, que les gens aillent pousser les murs et les interstices pour rentrer à l'intérieur et les habiter.
Bon, merci à toi, et puis on se retrouve ce soir sur la place.